Salut, c'est Matt et Max. Nous allons rider ensemble sur Radio MDM pendant une demi-heure. Bonjour MDM, je salue toute la chaleur et le tursan. Bonjour mon petit Matt, ça me fait plaisir de te retrouver.
Bonjour MDM, je salue moi aussi toute la chalosse et le tursan. Plaisir partagé Max.
On est les skaters chalossés et nous vous présentons Ride in Chalosse.
Aujourd'hui dans Ride in Chalosse, nous allons vous parler de l'histoire du skate.
Ah ça va être une émission riche en culture. Alors tout débute dans les années 1900, apparemment c'était dans la famille des moyens de locomotion. Et ce drôle d'objet a son histoire quand même. Hein. Il est inscrit dans les outils de l'homme inventés pour rouler, se déplacer, mais aussi pour s'amuser. Alors ces liens de parenté, voilà, sont pas trop exacts, Matt, c'est difficile voilà, à établir. Mais il me semble avoir lu que le skateboard a débuté en réalité avec malheureusement la trottinette. Voilà, c'était une espèce de trottinette à l'époque.
Ah, c'est pas très grave, Max, là, il faut être ouvert. Bon,
ouais, d'accord.
Du moment qu'après, nos petits trotty riders se mettent au skate, ça va. Ça
voilà,
va.
Il valait mieux qu'il évolue, quoi. Et donc voilà, cette trottinette, c'était une planche toute droite avec des roues de patins en fer. Et elle servait, en fait, avec son guidon un peu cagette, à transporter les récoltes dans les champs. Mais heureusement, le skate fait encore partie de l'univers de la glisse.
Ouais, c'est vrai, Max. Je ne sais pas si tu te souviens, tu parles de cette cagette sur roue. D'ailleurs, on le voit dans le premier Retour vers le futur.
Oh.
Marty McFly fait un petit voyage dans le passé, dans les années 50-60. Donc, c'est la période dont tu parles. Et il prend une cagette à roulettes à un passant, il arrache la cagette et il s'en fait un skate. Bon alors, effectivement, ça donne une planche toute en bois, sans grippe, sans concave, avec des roues en fer. Bon alors, ça limitait les mouvements et c'est sûr que ça n'attirait pas trop les riders.
Ouais, grippe, pour rappeler à nos auditeurs, c'est la partie rugueuse qui permet d'accrocher nos pieds sur le skate. Et le concave, c'est l'arrondi qu'on a sur les skates pour le placement des pieds.
Exactement, voilà, le creux en fait, parce qu'il y a convexe. C'est concave.
C'est ça. Et effectivement, Matt, il a fallu attendre 1973 pour que plusieurs innovations techniques se transforment et que le skate voilà, prenne sa place petit à petit. Et il y a eu ce gros phénomène justement à cette époque où c'est qu'il y avait déjà plus d'1,2 million pratiquants recensés. Et la déferlante du skate est arrivée en France. Et à l'époque, c'était voilà, toutes les audaces, les nouvelles inventions de figures, premier championnat, mais aussi voilà, la récupération par les médias qui on connaît aujourd'hui voilà, ce gros
phénomène. C'est vrai, Max, tu as raison. Et c'est, d'ailleurs, pour retracer cette époque, il y a un très bon film que peut-être nos auditeurs et auditrices ont vu, qui est sorti en 2005, qui s'appelle « Les Seigneurs de Dogtown », qui raconte l'histoire de surfeurs qui voulaient changer un peu quand il n'y avait pas de vagues et ils se mettent à skater notamment des balls. Donc ça c'était une des disciplines alors, importantes des années 70.
J'appuie un peu parce que moi je sais que j'avais eu la source. Ils en sont arrivés à ça par sécheresse pardon.
Oui, c'est vrai.
De la Californie qui avait toutes ses piscines vides et on pouvait pas re-remplir.
C'est vrai.
Et les surfeurs à un moment donné ont pris voilà cette vague de béton.
C'est ça, la Californie avait réquisitionné l'eau des piscines et les skateurs en ont profité pour rider ces piscines qui étaient concaves justement, elles avaient des arrondis donc on pouvait les rouler. Et il y avait aussi dans les années 70 une discipline qui s'appelait le freestyle, donc ça c'était au sol, on faisait des figures au sol, on faisait des poiriers pour être un peu généraliste. Et il y avait notamment un très bon skater français qui s'appelait Pierre-André Sénizergue. Qui ne vous dit rien aujourd'hui, mais c'est sûr que vous connaissez les marques qu'il a créées, puisque en fait, ce petit français là, ce petit Frenchie, il est parti aux États-Unis, il a créé Ednies, il a créé S et America, qui sont des marques de chaussures qui existent encore aujourd'hui. Donc, et puisqu'on parle de free, je vais te proposer un petit morceau pour égayer notre émission. C'est Dream On d'Aerosmith et c'était sur la session de Rodney Mullen, qui était donc un rider de free, dans la vidéo Plan B Second and Smoke.
Yes, la référence.
Appelez-moi le barde!
Thank you.
J'adore ce son, tu vois, il a bercé toute ma jeunesse. Bon, pour toi, on n'en dira pas plus parce que c'était un peu plus avancé.
Est-ce qu'on peut dire des gros mots à la radio?
Mais avant de continuer notre belle histoire du skate, je voudrais quand même te donner quelques dates importantes. Il y a eu 1962, le tout départ, un surf shop, Valsurf, qui a créé la toute première planche entière, voilà, avec ses trucks de roller. Et qui a travaillé très vite sur des planches un peu plus expérimentées. 1963, ça a été la première pub de skate dans un magazine de surf, donc voilà, qui a commencé à pousser un peu sur les médias. 1964, premier magazine que je te laisse nommer, Quarterly
Skateboarder.
Skateboarder, voilà. Qui voilà, a été aussi un des pionniers et qui a poussé la culture du skate à avancer. 1972, la première roue en uréthane, donc ouais. Voilà, comme on parlait tout à l'heure, c'était vachement fer, plastique très dur et pas très agréable pour rouler, donc voilà, ça a été...
Ouais, c'est ça, et donc il y a certainement voilà, l'industrie du plastique qui a inventé ces roues en uréthane. Pour schématiser un peu, l'uréthane, c'est une matière plastique... solide mais souple à la fois, notamment elle équipe les chariots que l'on voit soit dans les hôtels, soit dans les hôpitaux, les cliniques, ce sont des roues en uréthane.
Et une grande date qu'il faut retenir aussi, c'est 1976, le tout premier skatepark construit en Amérique, côté californien. Et encore en 76, une date que moi je ne savais pas et que je pense que je vais t'apprendre aussi, car c'est des soldats américains qui ont ramené le skate en Allemagne. Donc voilà, ça a été un grand pic aussi du côté plus européen. Donc voilà, c'est de là où ça s'est rapproché un petit peu de nous. Ensuite, il y a eu cette grande date que beaucoup d'auditeurs, je pense, connaîtront. C'est 1981, la création du magazine Thrasher.
Ouais, qui existe encore aujourd'hui.
Qui est là aujourd'hui et qui est même une marque reconnue via les jeunes. Et qui a créé ce style lifestyle avec Skate and Destroy, suivi de Transworld Skateboarding Magazine. Voilà, qui ont amené ces nouveaux magazines qu'on connaît encore aujourd'hui. Et 1997, on sait que ça a été le tout premier magazine français de
Shunga. Oh là là, mais Max, mais ça c'est pas ça, c'est parce que toi tu as découvert le skate. Non, il y a eu beaucoup, beaucoup de magazines de skate dans les années 80-90. Il y avait Bicross and Skate Mag, No Way, après No Way est devenu Anyway est devenu B-Side. Et je pense que tout ce petit monde a créé aujourd'hui Sugar qui existe toujours.
Ah ok, désolé, à l'époque j'étais un peu encore dans mes couches, toi t'étais plus ancré déjà dans cette culture. Donc c'est bien d'apprendre aussi plein de choses. Et pour continuer un petit peu notre histoire, la grosse date qu'il y a eu, qui a fait la grosse révolution du skateboard, ça a été 1978. Grâce à une figure qui a poussé la discipline, ça a été le Ollie R, donc appelé Ollie aujourd'hui, un peu raccourci. Et cette figure a permis aux skaters de décoller la planche du sol, de flirter dans les airs, d'affronter tous les obstacles de la ville. Et elle a été créée par Alban Gelfand.
Ouais, je connaissais pas ce rider, mais...
Voilà, c'est tout premier qui s'est lancé dans les airs. Et de là, ils ont pu s'approcher justement du mobilier urbain qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui dans le skate et à défier tous les supports, comme tu parlais, les mains courantes, les marches, les petites murettes et tout ça. Et la grande phrase du skate qu'on peut retenir, c'est on skate dans la rue, on skate contre la rue et on skate surtout avec la rue. Et cette figure restera durablement inscrite dans le skate pour l'évolution qu'elle a pu apporter. Quoi.
Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que toi et moi, alors même si on n'a pas le même âge, je crois que ça va être le fil conducteur de l'émission. C'est vrai qu'on a quand même tous les deux connu une période où la pratique du skate s'est démocratisée, hein, celle des années 80-90. Les marques ont explosé. Moi, je me souviens, je pense que tous nos auditeurs et auditrices qui ont entre 20 et 40 ans connaissent Tony Hawk ou ont entendu parler de Tony Hawk.
La légende.
La légende de Tony Hawk. C'est quelqu'un qui a aujourd'hui 54 ans. Figure-toi qu'il était venu dans les années 90. Il était en 1990, pour être précis. Il était venu chez La Saosa à Dax. Alors, c'était un magasin de sport qui existe toujours. De mémoire, il doit s'appeler Intersport aujourd'hui. Il était venu avec Steve Caballero, qui est aussi un rider très connu avec la Bones Brigade. Ça, c'était le team de la marque Powell Peralta, dont je parlais un peu plus tôt, peut-être, à moins que je ne l'ai pas cité dans les seniors de Dogtown. Il y a un rider qui s'appelle Stacy Peralta. Stacy Peralta, il avait créé avec Monsieur Powell, il avait créé Powell Peralta, et c'était le team qu'il fallait voir à l'époque. Et pour parler encore de la renommée des skaters, aujourd'hui, ou des marques, il y a des événements très importants comme les X Games, que yes, tout le monde connaît. La Street League, ça c'est un peu plus confidentiel parce que
c'est européen.
Voilà, et c'est très skate. Mais par contre, tout le monde a entendu parler du jeu vidéo. Ceux qui ont joué à la PlayStation, ils connaissent Tony Hawk Skate. Le gars a quand même un jeu vidéo à son nom. Et après, il y a beaucoup de skaters qui ont eu des chaussures à leur nom. Danny Way, Rick Coston, Steve Caballero, j'en cite et j'en oublie beaucoup. Et de mémoire, peut-être dans d'autres sports, il n'y a pas trop de sportifs qui avaient leurs chaussures à leur nom. Alors peut-être André Agassi, à l'époque, dans les années fin 80, il avait des chaussures bien flashy.
Et tu vois, du coup, je vais te couper. J'ai vu ces derniers jours une super évolution aussi. Et c'est là où c'est qu'on voit que le skate est encore en train d'évoluer très, très rapidement. C'est Vincent Milou, notre prodige skater français qui est en train de se mettre sur les JO et qui va être, il va avoir un gros poids à porter parce qu'il est attendu.
Wow, tu lui mets la pression là.
Ouais, mais il est vraiment attendu pour représenter la France et c'est un très bon personnage et une très bonne personne. Et il s'est raccroché à Globe, qui est une marque française, où c'est que le siège est à Seignos, donc pas loin de chez nous. Et il vient de sortir son premier pro modèle de chez Globe, Vincent Milou. Donc je pense que je serai le premier à l'acheter et le porter, okay. Et le porter rapidement.
Ouais, je pense que Globe, ça a des origines australiennes. Alors je ne sais pas s'ils les ont encore aujourd'hui, mais je sais que toi, tu es très proche de cette marque qui est basée...
À Seignos, ouais.
Ok. Bon, et sur notre première émission, Max, tu me chambrais avec mes vieilles cassettes vidéo.
Sois pas rancunier.
Non, t'inquiète, je suis pas rancunier. J'oublie vite. Mais ces cassettes, tu vois, nous apprenaient les tricks. Hein. Moi, j'en ai visionné un paquet. Et surtout, on écoutait, on découvrait grâce à ces cassettes beaucoup de groupes musicaux. Et là, je te propose pour ce deuxième son... le morceau Do You Love Me Now Junior des Breeders et Jay Maskis. Alors, les Breeders, je pense que nos auditeurs et auditrices connaissent. C'était Kim Deal, la bassiste des Pixies, qui, avec sa sœur jumelle, avait fondé les Breeders. Et Jay Maskis, c'est le fondateur de Dinosaur Junior, qui est un groupe indépendant très présent dans la culture skate.
Écoute, je vais le découvrir avec toi parce que le nom me dit rien, mais je vais écouter ce morceau musical avec nos auditeurs.
Ok, c'est parti.
If I saw you now, could I look in your eyes?
On est sur Radio MDM, la radio où les skaters prennent la parole.
Think of me like I dream of you. Do you wish you were here?
Effectivement, ouais, ce morceau est bien cool. Et même si tu es le vieux de Riding Chalos, ça prouve que voilà, notre émission va être, nos émissions même vont être riches parce que voilà, on a deux générations qui sont vraiment complémentaires et voilà, on a nos cultures chacun de notre côté. Et le fait de les réunir ensemble, voilà, ça amènera beaucoup d'argumentations bien plus complémentaires. Et ben écoute, vu que tu avais commencé à parler un petit peu de skater. Parle-moi un peu des skaters qui ont marqué la discipline toutes ces années, quoi.
Alors pour moi, les skaters qui ont marqué la discipline, j'en parlais en préambule, avec les seniors de Dogtown. Il y avait des gars comme Tony Alva ou Stacy Peralta qui ridaient à l'époque les balls. Mais un des skaters qui a le plus marqué les disciplines que l'on pratique aujourd'hui, c'est Rodney Mullen.
La deuxième légende.
Voilà, que tout le monde connaît. En tout cas, les skaters, pour les novices ou les néophytes, c'est peut-être... plus exceptionnel, mais Rodney Mullen, c'est un skater aujourd'hui qui a 53 ans, qui faisait à la base du freestyle. Donc le freestyle, je rappelle, c'était on skatait sur 4 mètres carrés, on faisait des figures en statique. Et lui, à force de fréquenter des gens du street...
Ouais,
comme,
le freestyle, ouais, c'était plus de l'équilibre en fait.
Ouais, c'est ça. On faisait des figures au sol sans bouger.
Voilà,
tandis
équilibre.
Que le skate... Tu le disais lors de notre première émission, c'est quand même un sport en mouvement. Il y a beaucoup d'équilibre. Alors, au sol, il fallait aussi beaucoup d'équilibre. Et donc, Rodney Mullen, en fréquentant des streeters, notamment comme Marc Gonzalez ou Jason Lee, a amené ses figures de freestyle dans la rue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit tous les skaters faire tourner
voltiger
leur planche sur eux-mêmes.
Voltiger la planche.
Sauter avec ou sans la planche, glisser sur des mains courantes, glisser sur du mobilier urbain. Et ça, c'est Rodney Mullen qui a vraiment amené beaucoup de choses. D'ailleurs, j'invite, on essaiera de vous mettre des liens à regarder sur l'émission.
Oui, parce que peu légal encore aujourd'hui. De tout le palmarès de figures qu'il a inventé, donc beaucoup essaient de le reproduire avec une ou deux figures, mais aucun n'a, quoi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu des skaters vraiment tenir tout sa complémentarité sur le...
Ouais, son répertoire.
C'est-à-dire
qu'il avait, même s'il a un égal aujourd'hui, il avait quand même 20 ans ou 30 ans d'avance.
C'est ça.
Donc les gars, ils seront toujours à la traîne.
Et des figures qu'on ne pouvait même pas imaginer.
Ah oui.
Voilà. Et moi, il y en a un deuxième aussi qui m'a un petit peu marqué, ça a été Napas Kopas, qui lui aussi a été à l'origine d'un tricks, donc d'une figure assez renommée, le Napas Spin. Et c'est le principe de sauter sur un plot ou sur un obstacle rond et de tourner en rond en fait et de redescendre de cet obstacle. Et la petite histoire, c'est que Mac Valeli l'avait déjà réalisé avant lui. Mais voilà, il ne savait pas que c'était une nouvelle figure et en fait, c'est Napas Kopas qui l'a mis en avant via des vidéos et c'est pour ça qu'on a appelé cette fameuse origine le Napas Spin.
Ah ben non, tu vois, je l'ignorais. Alors Max, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des skaters masculins, mais il y a de très très bonnes skateuses aussi.
Et heureusement, et j'espère que le temps fera qu'il y aura de plus en plus de skaters.
Oh ben oui, déjà toi je pense qu'avec la brigade à roulette, tu as des filles qui participent à tes cours.
Ouais, on a beaucoup de filles et on est souvent surpris parce que elles sont plus appliquées, sont plus minutieuses. Et voilà, c'est encore un sport masculin, mais on est vraiment en train de démocratiser vers le genre féminin.
Moi je vous invite à taper sur YouTube Elisa Steamer, c'est E-L-I-2-S-A, plus loin Steamer, c'est S-T-E-A-M-E-R. Vous allez voir, c'est une skateuse. Alors ça pourrait pas être la mère de Max, mais elle a quand même, je pense qu'elle a bien 40 ans cette fille.
Je pense que ma maman sur le skate, c'est pas cool.
Ouais, nos mamans en général, elles vont pas sur les skates. Mais elle ride très fort. Il y a en France quelques très bonnes skateuses qui vont être sélectionnées pour les JO. Donc moi, je vais parler de Shani Bru parce que j'avais déjà vu des reportages sur elle dans Riding Zone. Et en plus, elle ride sur Bordeaux. Donc voilà, Shani Bru, ça s'écrit S-H-A-N-I, plus loin B-R-U. Et je ne sais pas si elle a un lien de rapport avec Bru, l'entraîneur des avants de l'équipe de France de rugby, je ne pense pas. Mais voilà, ça c'est une rideuse qui monte très fort. Et donc pour rendre hommage à la jante féminine, je te propose un troisième son qui est Think d'Aretha Franklin, la version des Blues Brothers.
Ah super, bon son.
T'as raison ma Brenda. Much more intense.
standing around every day playing games and chasing scores. Kind of make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours.
Eh bien, écoutez, on remercie toute l'équipe de Radio MDM, tous nos auditeurs et nos auditrices. J'espère que voilà, cette émission vous a permis de comprendre les origines du skate et toute cette histoire d'où c'est parti et où c'est qu'on en est encore à aujourd'hui.
Alors moi, je vais remercier aussi Pierre et Margot qui nous assistent pour préparer cette émission.
C'est ça.
Et donc, on va remercier également toute l'équipe de MDM qui nous aide à préparer
tous les
Ride in Chalos,
tous les backstage.
Yes. Voilà. Et on va vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. À très bientôt sur les ondes de la Chalos et du Tursan
93.8
FM.
Allez, ridez avec nous. Merci.